Salut tout le monde.
Salut Charline.
Oh là là, je ne sais pas patate. Moi, je pourrais descendre un glacier en slip.
Ah bah tant mieux, parce que Juliette va pas falloir compter sur elle aujourd'hui.
Ah bon, qu'est-ce qui se passe?
Oh là là.
Par les rues.
Ah la voilà. Hein,
là, mon peine.
Ah bon, oh là là. Elle est ivre.
Ah non.
Gueule de bois.
Même pas.
Mais non, quoi alors?
Elle a le seum à cause de l'émission d'hier.
Ah, l'émission avec Olivia Coach. Mais n'importe quoi, elle était géniale cette meuf.
Tu lui dis pas ça.
Ouais, ça va, c'est bon, on a bien compris.
Mais Juju, enfin, c'est vrai qu'elle était super.
Oui, ouais. Eh ben, on a bien compris, oui.
Vous êtes ma nouvelle idole. Vous êtes la personne qui me fait le plus rire au monde. Je viens de le décréter.
Jalousie, jalousa.
Ah, mais t'es jalouse, Juju?
Elle est tellement jalouse,
non,
Juliette.
Non, je suis pas jalouse.
Si, t'es
non,
jalouse.
Je suis pas. Je trouve juste que c'est pas mérité cette admiration, là.
Oh.
Elle est bien gentille, Olivia Cotte, mais enfin, elle capte un beignet au sujet.
Mais pas du tout, enfin.
Bon. Ah ouais? Et là?
J'arrive pas à comprendre.
Et là?
J'arrive pas à cerner cette personne, ouais. Vraiment.
Elle est honnête.
Oui.
C'est ça son truc, Olivia, elle est authentique.
Alors que toi, Juju, t'es fausse comme une paire de seins de télé-réalité.
Ah, bah, mais enfin!
Oui.
Est-ce que votre personnage est un personnage pivot?
Je comprends pas le mot pivot.
Elle comprend pas le mot pivot quand même.
Ouais, là, c'est pas faux, d'accord.
Alors
mais bon.
Que tout le monde sait très bien que pivot, c'est un palier à axe vertical destiné à supporter une charge verticale. Tout le monde! Merde!
Oh là là.
Je crois que Guillaume a raison. En
bah
fait.
Oui, de manière générale, de toute façon, j'ai raison.
Bah... T'es jalouse, Juju.
Elle est jalouse.
Je suis pas jalouse.
Si.
C'est juste que dès que j'ai le dos tourné, Charline, tu t'infatues de n'importe qui.
Pablo,
oui.
Votre visage est un phare dans l'océan de ma solitude érotique.
Mais c'est de l'humour,
bah
Juju.
Oui.
Humour, c'est pour de rire, pas pour de vrai.
Bah
quoi.
Oui, moi je suis pas vraiment de gauche, Juju, tu vois.
Hein?
Bah oui, j'ai voté du poignant.
Hein?
Oui, aux deux tours en plus.
Ah ouais?
Ah ouais, non, mais en fait, elle est pas jalouse.
Ouais. Elle est con.
Elle est con.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la Start-up publique, cet endroit où la cantine d'entreprise a été remplacée par des food trucks et on a choisi ces trois infos à emporter. Donc, Parcoursup connaît de gros ratés, il y a une couille dans la plateforme, des admissions post-bac, le ministère reste confiant, les étudiants stressent, les parents sont en panique.
On t'avait dit de faire polytechnique, tu nous as écouté ? Non.
Les musées se convertissent à la high-tech pour nous offrir des visites virtuelles ou des œuvres en réalité augmentée. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire du musée un endroit hors connexion pour pouvoir se concentrer uniquement sur les œuvres, comme dans celui-ci?
Bienvenue à tous au musée de la pantoufle et de la charentaise.
Une pianiste peut-elle jouer du Rachmaninov salle Pleyel en mini-jupe? Les concertistes qui s'affranchissent des codes vestimentaires dans le classique sont vertement critiqués par les critiques.
Attendez deux minutes que je remette ma culotte.
Voilà. Quand Alex Vizorek lui a proposé un briefing pour le poste, il lui a dit « Fais gaffe, je suis très rigoureux », ce à quoi elle a répondu « Moi aussi j'ai mes règles ». Juliette Arnaud.
Oui, c'est vrai, tous les mois. Ah, Charline, une belle équipe avec tout d'abord, et ceci est un publi-reportage officiel de Parcoursup et donc du gouvernement, celui qui n'est pas prof de philo dans aucune classe prépa, mais bien ici, même s'il est censé être prof de musique, chez les Belges de la France Inter, André Manoukian.
Bonjour Juliette, bonjour Charline, je suis content de vous retrouver.
Ça se voit.
Non, parce que je réfléchissais, prof de philo, mais
non,
pourquoi
pas trop,
non,
pas trop, pas trop.
Je suis amateur de philosophie, c'est comme le gars qui était expert en comptabilité.
Et donc le sujet de la chronique,
la voix magique de notre invité. Vous voyez comme je me l'accapare, je me l'approprie, mon invité, dès qu'il y a une chanteuse, elle est à moi.
C'est
enfin,
beau,
c'est ça, touchez pas. Les gars.
Après, elle porte plainte quand même, André.
Mais
justement, ensuite, nous aurons celui qui est vegan, comme Sting, mesuré comme Ozzy Osbourne, The Fucking Prince of Fucking Darkness, qui est adepte de la cravate comme François Ruffin, le seul et l'unique, et pour ça, merci mon Dieu, Guillaume Meurice.
Oui, bonjour à tous. Et ben, c'est le salon Vivatech qui ouvre ses portes aujourd'hui, le salon des startups. Alors, ça, c'est pour nous. Et je vais vous raconter ça. Mieux, je vais vous le pitcher.
Là, maintenant, on est payé pour faire du pitch. En plus, on s'appuie sur le pitch des autres pour voler leur pitch, le retravailler et vendre du pitch comme on peut.
Voilà, calme-toi quand même. Je suis déjà fatigué.
Il y a des mecs qui vendent des pitchs.
Des pitchs, ouais, on va pitcher ça. Ouais.
Et enfin, une femme, que dis-je, une femme, une sainte trinité, la présidente officielle du fan club de Gustave Flaubert, slash l'objet d'adoration de mon maître Alex Vizorek, slash le punching ball combatif de Guillaume Meurice. J'appelle Clara Dupont-Monod.
Bonsoir Julienne, bonsoir à tous. On va parler de l'amour fou.
C'est bien, c'est frais.
Et de chef-d'œuvre.
Qu'est-ce que vous êtes belle quand vous dites ça, Clara?
Et je me tourne vers celle qui va enchanter l'open space. Vous commencez à suivre des cours de chant à 18 ans et vous sortez du conservatoire de Tours avec un premier prix avant de décrocher un second premier prix au conservatoire de Paris. C'est exact? Ouf. Vous débutez à l'Opéra en 96 sous la baguette de William Christie. Le grand public vous découvre notamment aux Victoires de la Musique et lorsque vous chantez en duo avec Florent Pagny. En 2010, c'est la consécration avec Lulu d'Alban Berg. Vous êtes êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Je suis...
Oui, c'est déjà pas mal.
Patricia Petitbon.
Oh, oh mais oui, c'est elle.
On l'aime beaucoup.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Patricia Petitbon. On est ravis de vous accueillir et je dois vous dire que Juliette est allée voir Orphée Eurydice au Théâtre des Champs-Élysées et qu'elle est revenue alors à la fois enthousiaste, bouleversée, bluffée. Vous nous l'avez amenée à l'opéra, elle est ressortie. Dans quel état Juliette ?
Ah ben je me suis retrouvée à nouveau avoir pleuré à l'opéra et à me faire la réflexion que je voyais une chose que je connais pas. Qu'on connaît tous par cœur, parce que l'histoire d'Orphée Eurydice, elle est somme toute assez connue.
Que j'avais... Pas forcément, peut-être que des personnes ne la connaissent
c'est
pas.
C'est vrai. Alors on peut le résumer en très peu de mots.
On peut la pitcher.
Oh oui, on peut. Ça s'appelle un argument. Hein, ça s'appelle un argument en langue française. Voilà. Donc Orphée est marié à Eurydice. Eurydice meurt. Orphée ne peut pas supporter que sa femme meure. Et comme c'est un grand chanteur, enfin, c'est un musicien, il adresse au dieu un chant de chagrin infini qui les touche et donc on lui permet de descendre aux enfers pour récupérer sa femme. Évidemment, il y a un truc, parce qu'avec les dieux, il y a toujours un truc, c'est jamais le numéro gagnant du loto. Il ne faut pas qu'il se retourne pour la sortir des enfers.
Inspiré d'une histoire vraie, il faut le rappeler.
Voilà. Il ne faut pas qu'il la regarde, il ne faut pas qu'il lui explique pourquoi est-ce qu'il doit garder le silence jusqu'à ce qu'elle soit revenue sur Terre.
Juliette a compris jusque-là.
Jusque-là, oui. Ça va.
Tout à fait. Voilà. Mais c'est surtout une histoire initiatique. C'est sur le chemin de la compréhension de la mort et l'incarnation de la vie dans la mort. C'est surtout ça. Au-delà des symboles, des histoires mythologiques, c'est le chemin de deuil d'Orphée qui quand même arrive aussi à se disputer avec son épouse, sa femme. C'est tout ce processus très profond de la perte.
Et d'ailleurs, on se demande, quand on regarde l'opéra, si c'est pas un rêve d'Orphée, enfin, un mélange entre un rêve et un cauchemar.
Ben, c'est ce que je vous dis, c'est une, à travers une histoire un peu onirique, c'est juste une réalité psychologique du drame humain, de la perte.
Et il y a une chose qui est très particulière dans cet opéra, c'est un opéra du début du 18e, ça a l'air comme ça un peu sec, un peu austère. Il se trouve que moi j'ai eu l'impression de voir un opéra profondément transgenre. Il y a quelque chose de très tonique et très moderne. Le rôle d'Orphée est joué par un contre-ténor, donc il y a une voix extrêmement haute.
Oui.
Moi il m'a semblé, mais je suis parfaitement néophyte, que la vôtre était moins haute, alors que vous êtes le rôle féminin.
C'est peut-être une déformation optique de l'oreille.
Oui, mais c'était très agréable, hein, c'était parfaitement...
Non,
oui,
c'est intéressant.
La perception.
Oui, c'est une perception, parce que j'ai une voix beaucoup plus aiguë que celle de Philippe Jarouski, je crois que ça doit être des effets de timbre aussi.
Sans doute.
Voyez, mais c'est intéressant ce que vous racontez, parce que voyez, quelquefois on croit voir quelque chose et on ne voit pas du tout la même chose suivant les angles.
Non, mais c'est vrai que c'est aussi une affaire de d'énergie, que lui il a une chose extrêmement plaintive et douloureuse, et
oui,
que dans votre incarnation d'Eurydice, moi je la trouve extrêmement combattante, pas toujours. On est un peu énervé quand on est dans le public parce qu'on se dit mais tais-toi donc, tu vas t'en sortir si tu te tais. Mais oui, elle est bizarrement, pour une morte, elle est extrêmement combative, cette Eurydice.
Oui, mais les morts sont très combatifs, vous savez.
Je trouve aussi. Et l'autre chose qui est un petit peu, moi qui m'a fait l'effet d'une chose transgenre, c'est que le rôle de l'amour, qui est l'autre grand rôle de la partition, il est joué, enfin le metteur en scène a décidé qu'au premier acte, il était sous les traits d'un garçon,
oui,
et ensuite sous les traits d'une femme qui vous ressemble.
Oui. Et oui, parce que c'est un personnage en fait qu'Orphée ne voit pas. C'est l'ombre de l'amour qu'il a pour sa femme. Et ensuite, oui, c'est l'ombre aussi de sa propre femme. C'est une sorte d'intrication, en fait, de deux êtres qui s'aiment à la folie et qui se trouvent aussi entre la vie et la mort.
Juliette, la mise en scène, vous avez aussi particulièrement intriguée.
Mise
en scène de Robert Carsen.
Elle est formidable d'un bout à l'autre, les lumières, les costumes, la scénographie, tout. À la fin, il se passe une chose très étrange quand le chœur se met à chanter et dit
qu'Amour triomphe et que le monde entier serve le règne de la beauté, le metteur en scène décide de rallumer la salle pendant quelques secondes,
oui.
Ce qui n'arrive jamais, ce qui est interdit au théâtre et à l'opéra. Oui. Et comme si, moi, parce que je vous me direz, vous, quel est votre sentiment, moi j'ai eu l'impression qu'il nous adressait au public une demande, c'est-à-dire de nous aussi servir l'amour collectivement, que ce soit pas seulement le cœur, Orphée, Eurydice et Amour.
Oui, tout à c'est fait, ça. Parce que c'est le sujet de nos vies, c'est savoir entrer aussi dans l'accompagnement des êtres qui nous quittent pour être dans la vraie vie, dans l'incarnation de la vie et de la mort. Et c'est ça la beauté.
Mais c'est comme ça qu'on le ressent. La beauté donc d'Orphée et Eurydice jusqu'au 2 juin pour 6 représentations au Théâtre des Champs-Élysées. Vous serez également à l'Opéra Royal de Versailles les 8 et 10 juin. Et puis France Musique diffusera cet opéra le 10 juin à 20h pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de vous voir au Théâtre des Champs-Élysées ou à l'Opéra Royal de Versailles. Donc avec Philippe Jaroussky dans le rôle d'Orphéo, mise en scène de Robert Carsen. C'est donc bien sûr l'opéra de Christophe Gluck. Et vous êtes sur France Inter, notre invitée Patricia Petitbon. Sur France Inter, par Jupiter, en compagnie de Patricia Petitbon, qui est en ce moment au Théâtre des Champs-Élysées. Profitez-en, c'est jusqu'au 2 juin pour l'instant, Orphée et Eurydice, avec Philippe Jaroussky, qu'on embrasse très fort, on sait qu'il nous écoute souvent, et dans une mise en scène de Robert Carsen. Et puis à l'Opéra Royal de Versailles les 8 et 10 juin. Et si vous n'avez pas l'occasion, France Musique, bien sûr, diffusera cet opéra le 10 juin à 20h. Patricia Petitbon, pour l'entourer aujourd'hui, Juliette.
À sa gauche, André Manoukian. À sa droite, Guillaume Meurice. Et heureusement, en face, Clara Dupont-Moretti.
C'est sec comme présentation.
Et un petit peu d'information.
Oui, c'est important.
C'est notre
journal de presque 17h17.
Roger.
Belle organe.
Merci. prend la beauté.
C'est Philippe Jaroussky.
Et oui, on l'embrasse.
C'est Philippe.
Et on commence avec les titres.
On parlera de la cacophonie dans le système Parcoursup.
Et rappelons que de mauvaises orientations peuvent créer des catastrophes professionnelles. Hashtag André Manoukian. Hashtag Guy Lagache.
On parlera du joueur de football Adrien Rabiot qui refuse d'être réserviste en équipe de France.
Ah dommage, c'était un joueur élégant et fin. Hashtag Clara Dupont-Mono.
Et arrogant aussi.
Oui, hashtag Clara Dupont-Mono.
Ah bon, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y aura des brèves?
Oui, hashtag Alex Vizorek, hashtag Chihuahua coincé dans le rectum.
On commence donc avec Parcoursup. Plus de la moitié des élèves n'ont aucune certitude pour l'année prochaine. Tous leurs choix ont été refusés. Leur avenir est bouché.
On est donc en train de créer une belle génération spontanée de François Bayrou.
À propos d'erreurs d'orientation, on a des nouvelles du Parti Socialiste.
Oui, puisque Stéphane Le Foll s'est exprimé sur la chaîne parlementaire à propos de François Hollande.
Quand je vois les queues qui s'allongent pour le livre de François Hollande, ça me donne de l'espoir.
Eh oui, de l'espoir et des queues qui s'allongent.
Il est chaud le Stéphane Le Foll.
Il a la métaphore turgescente en tout cas.
Gastronomie, selon les échos, il pourrait y avoir une pénurie de rosé cet été.
C'est pas comme ça. Oui, ça fait un choc psychologique pour Juliette, évidemment. C'est pas comme ça qu'on va faire revenir Gérard Depardieu.
Politique de la ville sur RMC dans l'émission Radio Brunet qu'on adore.
Oh là là, cœur sur toi Eric.
Oui, dans son émission donc, Marseille a reçu le Ballet d'or de la ville la plus sale de France.
Et Paris n'est que troisième. Et en même temps, à Paris, c'est vrai qu'il y a plein de gens avec des balais, notamment dans le cul.
Cul toujours. Trump s'en prend au financement public des cliniques d'avortement.
Oui, alors que s'il y a bien une publicité vivante pour l'avortement, c'est bien la naissance de Donald Trump.
On enchaîne avec du football.
Adrien Rabiot a donc renoncé à l'équipe de France.
Et oui, on reconnaît bien là l'esprit français qui abandonne avant même le début de la compétition, l'esprit de son gars.
Oui, cœur sur toi, hein, Joe Wilfried, petit ange, parti trop tôt.
On termine avec des brèves à Perpignan, prison ferme pour avoir mis un bébé dans la machine à laver.
Non, on le redit, les bébés c'est le congélo. Après ils déteignent dans la machine à laver, réviser l'électroménager, merde.
Et pendant 2 ans, une femme croit élever un chiot qui s'avère être un ours.
Et pas facile, oui, vrai brève, pas facile le quotidien quand tu es la maman de Jean Lassalle.
Cœur sur Jeannot.
Oui, et cœur évidemment sur les ours aussi qui nous écoutent.
Patricia Petitbon, je pense qu'on est bien informés. On est resté dans la délicatesse et la sensibilité. C'est un petit peu le thème de cette émission, vous l'aurez compris. Et on va deviser avec vous ce premier sujet. Bien heureux. Oh, vous savez, on est une équipe. Patricia, on est une équipe.
Vous allez m'aider parce que moi, je suis un peu perdue là.
Bah, évidemment,
non, bah, vous avez vu le niveau, sentez-vous à l'aise.
N'ayez crainte. Bien heureux le jeune qui a reçu son affectation pour Parcoursup, cette fameuse plateforme. C'est-à-dire les élèves avant le bac, même avant de passer le bac, devaient faire une lettre de motivation et noter leurs vœux pour être orientés vers une prépa ou une fac, etc. Et cette plateforme connaît des ratés. Pas de panique, il paraît qu'il y a 350 000 nouvelles affectations qui vont tomber bientôt dans les boîtes mail d'ici 10 jours. Et puis l'angoisse de l'affectation, finalement, ça vous prépare un peu pour l'avenir, non?
T'es muté dans le Nord.
Le Nord? Non. À Lyon?
Ah non, pas à Lyon, dans le Nord.
Ah non, pas à Paris. Me dis pas qu'il m'envoie à Paris.
Pas à Paris. Plus au Nord.
En Belgique?
Non. Avant la Belgique, il y a Nord-Pas-de-Calais, voilà. T'es muté à côté de Lille.
Lille? L'île de quoi?
Pas sur une île, Lille, la ville de Lille.
La ville de Lille? C'est horrible. Non, je peux pas, j'ai pas de vêtements chauds, je sais même pas où habiter.
Un extrait de Bienvenue chez les Ch'tis, bien sûr, le film de Danny Boone. Patricia Petitbon, est-ce que vous avez réussi, vous, à échapper à ce sujet qui est un véritable feuilleton? D'abord avec l'angoisse des jeunes qui arrivent à peu près 18 ans à devoir choisir et mettre des vœux, faire une lettre de motivation, etc. Et puis maintenant, la plateforme a dératé au moment où ils attendent leur orientation. Même à Louis le Grand, quand on a 14, on ne décroche pas de classe prépa, donc c'est qu'il y a un problème dans la plateforme.
J'ai entendu, mais au-delà de ça, je trouve que c'est très très compliqué pour les jeunes actuellement de s'orienter, tout simplement, d'avoir un métier où, qu'ils aiment, tout simplement aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, on le voit aussi dans la société, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, tout simplement, parce que il n'y a que... on a l'impression qu'on forme beaucoup de commerciaux, de banquiers, de...
La start-up nation.
Voilà, tout tourne autour de l'argent. Mm-hmm. Et donc, où en est l'individu, tout simplement?
Ouais.
Il y a quelque chose que je trouve assez choquant, mais peut-être que Patricia Petitbon, vous partagez cette indignation. Mais on a beaucoup dit quand même qu'il y aurait quelque chose d'un peu égalitaire dans cette nouvelle plateforme Parcoursup par rapport à
manière de sélectionner.
Voilà. Or, il se trouve que la plupart des bacs pro ou les bacs techno ont eu les portes fermées devant les BTS, par exemple. Alors, vous disiez effectivement, quand on a 14 à Louis-le-Grand, c'est déjà compliqué. Alors, vous imaginez les bacs pro ou les bacs techno, c'est encore plus compliqué puisque le niveau est un peu plus bas que 14 à Louis-le-Grand. Est-ce que ça vous choque, ce fait, cette espèce de hiérarchie qui ne dit pas son nom, cette sélection qui ne dit pas son nom? Ou est-ce que vous trouvez ça naturel? Parce que dans l'opéra, il y a de la sélection aussi.
Oui, il y a de la sélection partout, malheureusement. Et on est dans beaucoup d'hypocrisie dans notre société parce que... voilà, il y a les riches d'un côté, il y a les pauvres de l'autre. Il y a les gens dans la rue, il y a ceux qui n'ont plus de métier, il y a ceux qui vivent dans la voiture, il y a ceux qui mendient. Il y a beaucoup de misère quand même, et de misère sociale et une misère intellectuelle aussi. Donc, je généralise un petit peu, mais c'est compliqué pour la jeunesse parce qu'il y en a beaucoup qui mangent aussi des pâtes. Je veux dire, tous les soirs, il y en a qui ont des petits boulots. On n'aimerait pas en arriver comme aux États-Unis où on doit prendre des crédits pour payer ses études. Je trouve que la France doit être un pays ouvert à la culture, pas celle qui dégouline, hein, comme la confiture, mais la véritable culture, la culture. Et je crois que l'enseignement, la transmission, ça se passe dès la maternelle, c'est-à-dire de donner toutes les cartes en main pour avoir un mode de pensée, un mode de... pour pouvoir exister en tant qu'être humain et ne pas être noyé dans cette masse où nous sommes tous des clones et dirigés par beaucoup de lobbies aussi. Donc, c'est très compliqué, on comprend les colères. On comprend les colères parce que ça bug. Ça bug dans l'humanité tout entière.
C'est à l'orientation déjà qu'il y a un souci. Quand on pense à cette question, comment est-ce qu'un gosse qui n'a rien vu de la vie peut se dire à 13 ans ou à 14 ans, je vais aller dans telle ou telle filière? Alors il y a des conseils d'orientation, mais de
même
quoi
à 16
on
ou
peut
17,
parler
hein.
quoi
c'est, Même c'est, à 16 ou 17
bah, Moi j'ai oui, mis un oui. moment. Moi je me suis, j'ai fait 6 mois en médecine pour faire plaisir à mon père. T'imagines moi
en gynéco
médecine,
ouais, ouais.
Je suis arrêté juste avant le toucher rectal, Guillaume.
Et Patricia, c'est à 18 après, ans que vous avez choisi le chant, finalement.
Oui, en fait, c'est-à-dire que... Je sais pas comment dire, mais je pense qu'enfant, moi, j'ai eu la chance de demander très tôt à faire de la musique. Voilà. D'avoir un lien avec la transcendance, tout simplement, avec la beauté.
C'est vous qui l'avez demandé ou c'était vos parents autour qui
Non, étaient... c'est moi qui l'ai demandé. C'est moi qui l'ai demandé. J'ai senti qu'il fallait que je m'échappe du monde. Pour y être, pour savoir y vivre. Et ça, très très tôt. Dès l'âge de 4 ans, j'ai senti que mon oxygène serait dans quelque chose qui me transcende. Que ce soit dans la beauté. Comme si, d'instinct, dans mon instinct d'enfant, je savais qu'il y avait aussi une laideur. Et je crois que c'est dans cette transmission-là, c'est la plus importante. C'est celle à donner aux enfants, pour qu'ils puissent aussi s'aimer. Se donner du courage, exister, tout simplement. Et on n'est pas juste là pour, voilà, autour de l'argent. Il n'y a que des enjeux d'argent, mais on ne parle pas de l'être humain.
Tout le monde rêve de faire HEC.
Oui, voilà, vous allumez la télévision, vous parlez que de... Enfin, tout est... C'est comme si on perdait un petit peu le cœur de ce que l'on est. Et les enfants, c'est l'avenir. Ce sont les futurs adultes.
Et on va revenir à cette transcendance dont vous parlez, Patricia Petitbon, avec la chronique d'André Manoukian que vous transcendez.
J'aime bien, j'aime bien cette introduction. Non, voilà. Bon,
comprenez-vous.
Je suis un tout petit peu embêté parce que depuis le temps, ça me pendait au nez, à force de jouer les malins. À m'auto-proclamer expert en voix, me voilà confronté à une des plus grandes chanteuses du monde lyrique. Et là, je frise le syndrome de l'imposture, Guillaume.
Enfin.
Mon principe de Peters. Mon nez s'écrase contre mon plafond de verre, mes jambes flageolent. Ouais, à force de... Parler des voix, il fallait bien qu'elle m'arrive, hein, cette créature mythologique qui fait transpirer les moustaches. La diva.
C'est un compliment hein, pour André.
Oui. Prenez-le bien.
Alors, diva, ça vient de l'italien et ça veut dire déesse. Par extension, ça signifie aussi femme ou homme au comportement hystérique qui fatigue son entourage par ses exigences répétées. Patricia, il y a quelques divas autour de cette table, mais elles sont pas forcément là où on croit. Si on s'en tient à la première signification, en fait, on trouve très peu d'êtres humains qualifiés de titre divin. Deux présidents de la République, François Mitterrand, qu'on appelait Dieu, Emmanuel Macron, qu'on appelle Jupiter, et tout le reste, eh ben, c'est des chanteuses. Parmi lesquels la Callas, Montserrat Caballé. Mais le terme de diva, en réalité, n'apparaît qu'au 19e siècle dans l'histoire de la musique. Auparavant, les chanteuses étaient des prima donna, des premières dames. Et en fait, le terme de diva était réservé aux castrats qui fascinaient le public. Pensez, des voix de femmes dans des corps d'hommes, même Juliette Arnault s'y est trompée hier, ça produisait ce qu'on appellerait aujourd'hui une femme augmentée. Parce que la cage thoracique d'un homme étant plus importante, voilà une voix de femme qui a une puissance qu'elles n'ont pas d'habitude, et ça produit donc un effet troublant, une féminité augmentée d'un phallus, mais d'un phallus en parfait état de marche, parce que si les testicules n'étaient
pas... C'est un compliment.
Je parle des castrats, hein, on fait plus ça maintenant, mais autrefois, ça n'empêchait pas nos garçons de pouvoir se servir de leurs instruments, et qui plus est avec l'avantage de la contraception intégrée sur site, ce qui faisait...
Alors là, j'ai rien pigé, je peux pas vous aider. C'est que...
Les belles aristocrates italiennes se précipitaient dans le lit des Farinelli et autres héros à la voix d'ange, et pas de... Vous avez compris, vous, Guillaume?
Hein, les castrats attiraient beaucoup les voilà, femmes, quoi, c'est ça.
Et on pouvait pas tomber enceinte d'eux, c'est ça?
Et ben, voilà, exactement. Voilà, bon, et puis, en plus de ça, comme on pensait que c'était une femme, enfin, on avait envie de, des hommes qui n'exhibent pas leur virilité sont du coup moins effrayants, voyez-vous?
Moi, je suis bien d'accord.
Merci, Jamy.
Revenons à notre héroïne. Revenons à Patricia Petitbon, qui de la diva n'a gardé que les attributs les plus honorables. Une voix de soprano coloratour, ce qui veut dire qu'elle est équipée pour faire des enjolivements, des ornementations, pour faire tourner les notes dans nos oreilles et les faire danser jusqu'à nous faire perdre l'équilibre, maniant les sortilèges d'une charmeuse de serpent avec la dextérité d'une jazzwoman et la précision d'une Calamity Jane, égrenant les contrefas de la reine de la nuit, mais avec une légèreté, une aisance qui défie les lois de la gravitation, qui nous libère des contraintes de la pesanteur, qui nous emmène direct dans le monde immatériel de l'esprit, dans l'idéal et insoutenable légèreté de l'être. C'est un état que j'aspire à aller, Patricia, mais je n'y arrive pas. Non. Dans les étoiles, en deux mots.
C'est la même chronique que pour Lara Fabian, vous êtes en train de le faire, vous foutez
c'est
la gueule du monde.
Patricia. Dans les étoiles, elle nous emmène, Patricia Petitbon. Sa voix nous dessine des étoiles avec plus de détails que le télescope le plus précis du monde. Orphée et Eurydice, avec le contre-ténor Philippe Jarouski, deux divas vont nous chanter la souffrance amoureuse, celle de l'ultime séparation. Le paradoxe, c'est que chanter la peine calme la peine. C'est que la musique guérit des souffrances. Chanter est le seul acte qui vaille quand on a perdu un être cher, parce que des pyramides d'Égypte aux montagnes du Colorado, c'était le chant du sorcier qui accompagnait l'âme du défunt pour le guider dans le monde des esprits. Le chant est au début de tout, au début de la vie. Au commencement était le verbe, nous dit l'évangile de Saint Jean. Donc, au commencement était le son. Le son du Big Bang aujourd'hui résonne encore dans tout l'univers. Le maître du son est donc un démiurge. Patricia Petitbon est définitivement une déesse qui trône à la première place de mon panthéon à moi perso. Wow.
So
Patricia Petitbon, accompagnée au piano par Suzanne Manoff. Les berceaux de Gabriel Fauré, et c'est un extrait de votre album La Belle Excentrique, qui est sorti en 2014, n'est-ce pas Dédé ?
Exactement, et on parlait d'éducation tout à l'heure, et moi une grande mesure que je trouve terrible du ministre Blanquer, c'est voilà, de réintroduire le chant à l'école, avec les chorales, c'est génial. Moi, ma théorie à moi perso, c'est que je crois que la démocratie est née dans les pays où il y avait des chorales. Parce que chanter à plusieurs, ça veut dire on est obligé d'écouter la voix de son voisin qui n'est pas la même que la nôtre, pour s'accorder avec lui. Donc chacun s'exprime, exprime une voix différente, mais on est complètement à l'écoute. Et réintroduire ça encore une fois à l'école, remettre les gamins sur des métiers qui soi-disant, moi quand j'ai dit à mon père je voulais être musicien, il m'a excommunié, tu vas faire saltimbanque et tout ça. Bon, je finis un peu à France Inter, ok, mais quand même.
Moi, chez Patricia Petitbon, il vient d'une famille d'artistes où quand vous avez dit que vous chantiez, c'est passé.
Oui, mais alors moi Mes ancêtres, en fait, ils chantaient tous. Mon arrière-grand-mère avait un frère qui peignait, qui a peint avec Chagall le plafond de l'Opéra de Paris. Il a été choisi. Il y en avait une qui avait été en avant-spectacle avec Maurice Chevalier. Donc, il y avait quand même un goût pour les arts. Et donc, j'avais toujours entendu ces histoires. Et j'avais un goût voilà, particulier pour toutes sortes de choses, que ce soit la peinture, l'opéra, l'opérette, enfin, on veut tout, le jazz.
Et pour rebondir sur ce que dit André Manoukian, on salue la maîtrise de Radio France, qui fait un super boulot. Patricia Petitbon est avec nous et elle est aussi au Théâtre des Champs-Élysées jusqu'au 2 juin pour 6 représentations avec Philippe Jarouski dans Orphée et Eurydice de Christophe Gluck, que Juliette est allée voir et qu'elle vous recommande plus que chaleureusement dans une mise en scène de Robert Carsen. Et puis vous serez à l'Opéra Royal de Versailles les 8 et 10 juin et France Musique diffuse le 10 juin à 20h. Patricia Petitbon, à côté de vous, il y a Guillaume Meurice.
C'est moi.
Accrochez-vous.
Oui. Et surtout qu'aujourd'hui, voilà, il y a un événement particulier. Il y en a qu'on peut pas rater quand on est comme moi focus sur le process. C'est le grand rendez-vous Vivatech. C'est le rendez-vous des startups de France et même du monde entier. Le plus grand rassemblement de bullshit juste après les chroniques d'André Manoukian. Donc il y a de l'open.
Pas celle d'aujourd'hui, attention.
Oui, sauf celle d'aujourd'hui, évidemment, qui était particulièrement. Voilà. Alors il y a de l'innovation partout. Ça pue le big data. Et ce matin, il y avait Manu Macron. Ce matin, il était chez lui. Il était à l'aise. Il était comme Juliette Arnault dans son bain mousseux. C'est comme un bain moussant, mais elle met du mousseux. C'est comme ça. Macron, c'est vrai que c'est le boss, Manu Macron, parce qu'il a gagné l'élection grâce à une seule chose, le pitch. Il est super fort en pitch. Il avait le programme de Ronald Reagan. Et ben, quand il le pitchait, tu voyais la culotte de Marilyn Monroe. S'il te raconte Camping 3, tu vois Apocalypse Now. Il te parle de Guy Lagache, tu vois Kevin Costner. C'est vraiment le mec qui est balèze en pitch. Et dans la Startup Nation, si t'es pas bon en pitch, et ben t'es cramé. Alors, on va apprendre ça ensemble avec deux exemples. D'abord, une startup qui organise des hackathons. Qu'est-ce qu'un hackathon ? Pitch.
Alors, un hackathon, c'est un événement qui va durer 48 heures où on va réunir des designers, des développeurs, des gens qui font du business. Le jury va élire un gagnant.
C'est en gros, voilà. C'est une sorte à la recherche de la nouvelle star, mais pour les startups.
Si l'objectif est de recruter pour l'entreprise, oui.
Et est-ce qu'après, ça fait comme les gens qui gagnent à la recherche de la nouvelle star au bout d'un moment, on n'entend plus parler d'eux
Non. La plupart du temps, on entend parler d'eux encore.
Oui, essentiellement de leur famille, quand on remet la cassette dans le magnétoscope à chaque Noël. Mais sinon, voilà, Steve Estatoff, qu'est-ce qu'il devient, André, dans les nouvelles Myriam Abel, j'en passe et des pires. Rappelons que les vrais vainqueurs de la nouvelle star, c'est le jury, avec le cachet qui touche à chaque émission, ils gagnent à tous les coups. Alors attention, dans un pitch, on doit être précis, ça on l'a entendu, sinon c'est foutu. Premier conseil, on continue avec un autre exemple, une start-up qui propose d'envoyer des SMS, mais dans des bulles de BD. Oh, c'est génial, pitch.
On propose aussi cette technologie aux entreprises qui veulent améliorer leur service client ou la communication avec leurs employés, justement pour casser un peu cette barrière hiérarchique. Il y a certaines entreprises qui cherchent justement à avoir des solutions pour ça.
Donc un patron va pouvoir virer un employé, mais avec...
Dans la bonne humeur.
Avec une petite bande dessinée.
C'est ça, c'est le plus important.
Voilà, un bon résumé du monde de la start-up, où je vous rappelle que Vaseline se dit flexi-sécurité. Attention, toujours les termes... Donc ça, c'est... Alors attention, dans un pitch, de ne pas être trop cynique. Là, c'était peut-être un peu trop cynique. Donc ça se voit. Alors le mieux, c'est de vous donner sans plus attendre une leçon de pitch.
Faut lâcher un max de buzzword en fait. L'important dans un pitch, en 10 minutes, faut lâcher intelligence artificielle, disruptive, digitalization, and des buzzwords.
Voilà, les buzzwords, on est bon là-dessus, hein, Clara? Parce que je sais, quand vous pitchez votre livre, ça va pas du tout, j'ai entendu tout à l'heure. Aliénor lance la révolte contre son mari en 1173.
C'est disruptif, ça!
Zéro buzzword.
C'est disruptif!
Zéro. Aliénor va disrupter la face de son business manager en B2B. Ok? Là, on s'intéresse. Vous rajoutez 2-3 bruits d'épée puis des rugissements de sanglier comme vous faites d'habitude et on est bon. Mais on peut encore aller plus haut avec tout simplement le fondateur de l'école du pitch. Bah, évidemment, l'école du pitch, il s'appelle Lorenzo, il est très sympa. C'est un maître du pitch, un pitch master, on l'écoute.
L'école du pitch, elle est présente sur Vivatech pour coacher les 400 startups présentes sur les labs de Vivatech. On a 40 coachs.
Des coachs de pitch.
Des coachs en pitch.
Des coachs en pitch.
Des coachs en pitch.
Attention, attention, ne pas fâcher Marlène Schiappa qui est très tatillonne là-dessus en ce moment. Hein, c'est pas des coachs à pitch non plus. Faites gaffe, faisez pas les cons, hein, sinon Marlène, elle va foutre un coup de bécherel sur le coin du bec. Allez, on continue avec Lorenzo.
Les startups qui pitchent sur les scènes de Vivatech viennent s'entraîner ici avant de retourner faire leur pitch final on stage. C'est assez sympa, une super ambiance hyper bienveillante, donc on leur fait surtout des feedbacks positifs.
Des feedbacks de pitch.
Des feedbacks de pitch.
Feedback de pitch, c'est très, très important. Un pitch n'est rien sans un bon feedback de pitch. Je vous le dis qu'on peut upgrader à zap. Évidemment. Vous suivez ? Je pitch bien. Hein. Mais, ouais, j'étais ce matin donc à l'école. Mais voilà, je pense à me former encore mieux. Hein.
On a plus de 200 coachs actifs à l'école du pitch.
Comment on fait pour être recruté à l'école du pitch ?
Pour être coach à l'école du pitch ?
Il faut pitcher le fait qu'on est coach de pitch.
Il faut pitcher, mais ça s'apprend.
On peut être bon coach en pitch sans forcément être bon en pitch.
Effectivement, des très bons coachs en pitch ne sont pas forcément les meilleurs en prise de parole, mais ils ont toutes les techniques.
Et évidemment, hein, c'est là qu'on reconnaît les vrais coachs en pitch. Moi, j'ai connu des pitchers pas bons coachs en pitch et des coachs en pitch pas bons pitchers. Et inversement, vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, voilà, je vais vous dire, c'est de pire en pitch. Oh là là! Un petit peu d'humour d'open space, ça fait pas de mal. Allez, terminons avec un dernier conseil, un conseil pitch.
Ce qui est important, c'est de bien articulé pour donner le nom de sa solution, histoire qu'on s'en souvienne à la fin du pitch. Donc voilà. Et surtout, je viens de faire le truc qu'il ne faut jamais faire, c'est finir par « donc voilà ».
Voilà, donc voilà, ça valait bien le coup que je vous donne un cours de pitch. Bon, retenez une chose, un pitch, c'est comme la petite brioche au chocolat, là, du même nom, avec les beaux discours start-up de la Macronie. À la fin, on va tous finir par se faire fourrer.
Merci Guillaume Meurice.
À votre service.
Toujours dans la finesse et la légèreté, qui est le maître mot de cette émission. Bien Patricia sûr. Petitbon, vous l'aurez noté. Patricia, si je dois vous laisser choisir entre deux sujets, l'intrusion du numérique dans l'art, les musées, etc., ou la tenue vestimentaire, les codes vestimentaires de l'opéra, du classique, qu'est-ce que vous choisiriez comme sujet ?
Peut-être l'entrée du numérique dans l'art.
Ah, mais très bien, alors allons-y. Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, apprêtez-vous. Donc sur ce deuxième sujet, car les musées cherchent à se convertir à la high-tech, justement, pour aller chercher le public sur son smartphone. Je pitch, Guillaume, j'ai suivi vos cours.
Ouais, c'est
car
pitché,
les prolongements numériques doivent redonner l'envie de culture à des publics qui l'ont perdu. C'est bien, là ?
Buzzword. Voilà.
Donc voilà le débat. Est-ce que les musées doivent être des sanctuaires de la déconnexion pour pouvoir se concentrer sur l'œuvre, uniquement sur l'œuvre ? Attention, n'oubliez pas, la concentration dans l'art, c'est primordial.
Je comprends pas, Sabine. C'est 350 photos de sexes différents ou c'est la même pin photographiée 350 fois ?
C'est magnifique.
J'aime énormément celui-là.
Le tout petit ?
J'en suis folle.
C'est bizarre, Sarah.
Bien sûr, c'est Musée au Musée Bas, Jean-Michel Ribe. Et oui, c'était pas l'extrait que j'avais écouté dans le bureau. On m'a fait une petite blague, mais c'est pas grave. Alors, Patricia Petitbon.
Il était bien cet extrait.
Oui, il était très très bien. Alors, dans Le Point, il y a donc un article qui pose ce débat. Les musées, évidemment, veulent se convertir au numérique, faire des visites virtuelles. Et c'est vrai que si on n'a pas l'occasion d'aller à New York, visiter le métropolitain, est-ce qu'on peut le visiter de chez soi, etc. Je me demandais quel regard avez-vous là-dessus, vous qui adorez les beaux-arts.
Moi, j'ai un regard très contemporain.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il faut vivre avec son temps, tout simplement. Je trouve que c'est bon, il y a des technologies assez incroyables. Donc, si ça peut aider à entrer dans l'univers d'une œuvre d'art, évidemment, ensuite, il y a l'objet lui-même. Mais il y a aussi des œuvres d'art qui sont habillées aussi par la technologie. Il y a des musées qui font ça, qui offrent des dimensions différentes, qui habillent l'œuvre d'art. Il y a toutes sortes de facettes pour découvrir les choses et les artistes. Mais je pense qu'on est obligé de vivre avec son temps.
Et que tous les outils qui
voilà, bientôt
aider...
vous aurez Maria Callas dans votre salon. Hein.
Oh, dites donc.
Oui, vous aurez tout le monde dans votre salon. Vous pourrez même faire du karaoké, vous verrez. c'est clair.
C'est-à-dire que même dans votre domaine, le numérique aussi, parce que le...
Moi, je suis certaine que oui, on aura des... Il va se passer des choses assez incroyables avec cette technologie. Tout comme le chanteur d'opéra, je pense qu'à un moment donné, s'il est sonorisé, c'est pas quelque chose d'absurde.
C'est-à-dire sonoriser le chanteur
d'opéra. C'est-à-dire qu'un chanteur d'opéra chante sans micro. Mm-hmm. Là, au Théâtre des Champs-Élysées, nous n'avons pas de micro. Mais quelquefois, c'est pas mal aussi d'avoir des micros. Ça dépend comment c'est utilisé. Je crois que... Voilà, il n'y a pas de... On ne peut pas être toujours dans quelque chose de puritain, dans un tabou, de comment présenter les choses, parce que l'œuvre d'art, de toute façon, elle a une vie au moment présent. On la transmet. Mmh. On ne la transmet pas forcément comme elle était. Elle se transforme, elle se métamorphose avec les générations et avec les yeux des vivants. Voilà. Et les yeux du passé étaient là.
Oui.
Mais ils se transmettent avec les yeux du présent, et ainsi de suite.
Patricia Petit, vous ne voudriez pas être ministre de la Culture ou même présidente de la République ? Parce que tout ce que vous dites depuis le début de l'émission, on a légèrement envie de voter pour vous, je vous le dis. Hein.
C'est gentil. Mais...
Une petite réflexion, on a encore une minute sur ce sujet, Juliette Arnaud, oui. Qui est allée voir justement Orphée Eurydice au Théâtre des Champs-Élysées.
Et donc mardi, évidemment, il y a eu une voix pour annoncer au début qu'il ne fallait pas prendre de photos. Moi, à chaque fois, je ricane parce que, après, en général, pendant le spectacle, les gens prennent des photos.
Oui.
Et ben, bon Dieu, l'opéra, tout le monde est très discipliné, hein. Personne n'a pris des photos.
Mais alors, il faut savoir aussi que... Alors, c'est très compliqué de prendre des photos dans un spectacle parce que vous... C'est aussi un univers de lumière, voyez. On entre dans une histoire, dans une concentration qui est évidemment un petit peu différente des concerts de rock, on est tous nos briquets, comme ça, on se lève. Mais ça pourrait être comme ça aussi, hein, les concerts classiques, hein, bien sûr. Mais là, on entre dans une histoire. Donc, c'est vrai que si vous chantez, vous voyez une lumière tout d'un coup intergalactique qui arrive sur vous, le temps de vous dire ça, pouf, vous avez un trou de mémoire, par exemple.
Bah, ce serait dommage.
Oui. Patricia Petitbon avec nous. Pour terminer cette émission, nous avons une petite tradition, c'est qu'on propose un petit sketch pour que l'invité joue avec nous.
Il y avait une tradition dans l'émission.
C'était
la chronique
de Clara. Les 50, pardon, j'ai oublié. Oh ma Clara, je ferai acte de contrition.
Vous pouvez.
Jusqu'à la semaine prochaine.
C'est la littérature que vous tuez, Charlie.
J'étais plutôt pour moi cette nouvelle ligne éditoriale.
Oh ma Clara, allez-y, nous sommes tout ouïes.
Mais on a failli zapper l'actualité, parce que l'actualité, c'est bien sûr tout ça, mais c'est aussi le mariage de Meghan Markle. Et du prince Harry.
Je sais que vous l'avez suivi.
Bon, bah, Patricia Petit, allez,
un décrottable républicain, parce qu'il y avait la robe de Meghan, il y avait la calèche parmi les tours de Windsor, il y avait blason, cœur et licorne sur eux. Je me rappelle pourquoi je vous ai oublié, mais continuez. Mais non, c'était beau comme un opéra. Sachez reconnaître la beauté, c'est dans l'opéra. C'était beau comme un opéra. Alors, il y a un tout petit bémol, je reconnais, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin forcément de 2 milliards de téléspectateurs pour valider un grand amour. Il arrive parfois que l'amour fou se déploie dans le secret d'une grotte des enfers, comme dans Orphée et Eurydice, ou alors au cœur d'une montagne. Et c'est précisément ce que raconte un exceptionnel roman qui nous vient des États-Unis, mais il faut que vous l'achetiez, Patricia Petitbon. Je pense que la terre entière devrait le lire. Il s'appelle Idaho, avec l'accent, de Emily Ruskovitch. Alors elle, il faut le savoir, elle a à ses pieds, en ce moment, toute la critique américaine. J'ai regardé les critiques du New York Times et de tous les journaux. Il y a une espèce de réelle stupéfaction parce que c'est un chef-d'œuvre. Et je précise que c'est le premier roman d'Emily Ruskovitch, donc c'est vous dire ce que ça inaugure. Juliette, on a quelques soucis à se faire. À mon avis, il faut qu'on soit à la hauteur.
Bah, arrêtez d'en dire du bien déjà, comment ça.
Ah, mais non, mais noblesse face à l'adversité quand même. Ce roman part d'un amour assez dingue entre Anne, qui est prof de musique, et Wade, qui a la cinquantaine, burinée, un peu comme Manoukian, taiseuse. Ça, c'est la différence. Mais c'est un homme qui se confond avec les montagnes de l'Idaho. Et il se trouve que ce Wade a une blessure terrible en lui. 9 ans auparavant, il était marié à une autre femme, il avait 2 petites filles, et lors d'une journée banale du mois d'août 1995, ses filles se chamaillent, lui, il ramasse du bois, et soudain, il y a un drame que je ne vous explicite pas ici, mais sa petite fille de 6 ans meurt, l'aînée de 9 ans affolée court vers la montagne, on ne la retrouvera jamais, et la mère, je ne vous dis pas. En tout cas, Anne récupère cet homme en
1000 morceaux. Parce que ça porte un nom, c'est « Il a tout perdu ». Il a tout perdu, y compris la mémoire de la perte. Parce que Wade, alors est-ce que c'est le suite au choc de la disparition ou de la démence précoce? En tout cas, il perd et la mémoire et la tête. Par exemple, Anne retrouve sa brosse dans le congélateur. Elle retrouve le lit qui est fait complètement à l'envers. Ou alors elle rentre un soir et elle trouve les murs percés de trous assez larges. Mais, lui explique Wade, c'est pour laisser passer les chats errants. Alors, que fait Anne? Que lui permet de faire cet amour démesuré pour être avec Wade? Eh bien, en fait, elle va faire comme lui. Je vous donne juste une scène. Un jour d'automne, Wade somnole dans l'herbe. Il fait assez doux, ils sont tous les deux. Anne s'allonge à côté de lui et soudain, je cite, « Elle a senti l'ancienne vie de Wade, ses souvenirs, s'évaporer à travers sa peau. Elle a senti que tout le quittait, sauf elle. Alors, elle s'est à son tour vidée de sa propre vie pour être sur un pied d'égalité avec lui. » Un nuage est passé devant le soleil et à l'intérieur de Wade, il y a eu un basculement qu'elle a perçu. À ce moment-là, elle a laissé un basculement se produire à l'intérieur d'elle-même et ils sont ainsi redevenus les êtres qu'ils étaient habituellement, encore tout chauds de l'amnésie qu'ils venaient de vivre. Vous voyez comment est l'écriture, vous voyez ce que je viens de vous citer, la simplicité et la profondeur de cette écriture. Alors, entre parenthèses, là, ce que je viens de citer, c'est la mise à mort de Balzac, à laquelle, quand même, vous venez tous assister. Pourquoi? Parce que, la vision...
Ouais, dites-le, parce que là...
Parce que la vision balzacienne du couple, qui est très française et qui a irrigué tout un pan de notre culture encore maintenant, en gros, c'est le couple, c'est un duo bancal où il y en a un qui pleure et l'autre qui tourne en rond. En gros, vous avez la souffrance et l'ennui. Mais c'est ça, donc c'est assez sympa quand même. Et voilà une américaine, justement comme par hasard, qui arrive et qui dit « Bah non, le couple c'est quelqu'un qui dérive et l'autre qui l'accompagne ». C'est Orphée et Eurydice, c'est exactement ça. C'est aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de L'écume des jours de Boris Vian, c'est Chloé et Colin. Oui. Rappelez-vous, Chloé comme Wade elle est malade et Colin comme Anne ne lui lâche pas la main. Et comme par hasard, Boris Vian, on connaît son intérêt pour le jazz et l'Amérique, c'est QFD. Je vous redonne les références. Idaho, d'Emily Ruskovitch, est paru chez Gallmeister. Ce serait faire injure à ce livre, juste de ne pas préciser qu'on ne s'en tient pas à l'histoire d'amour et on déborde sur quantité d'intrigues où elle alterne les points de vue. C'est un exploit littéraire.
Merci Clara Dupont-Mono.
Ça c'est du pitch, sans déconner.
Clara Dupont-Mono, merci beaucoup. Et donc on va terminer, si vous êtes d'accord.
Ça valait le coup de me laisser la parole.
C'est le sketch de fin d'émission, c'est notre petite tradition. On propose un rôle à l'invité. Et aujourd'hui, c'est vous jouez votre propre rôle. Donc ça va. André Manoukian joue le rôle de votre assistant parce qu'on a appris que vous aviez fait un duo avec Florent Pagny. Et du coup, on voulait vous proposer d'autres duos, d'autres idées. On est parti.
Patricia Carla Bruni vient d'arriver.
Ah super, fais-la entrer.
Bonjour.
Pardon.
Bonjour.
La vache, j'entends rien.
Elle a dit bonjour, Patricia.
Ah, ok.
Est-ce que je peux m'échauffer la voix 5 minutes?
Mais bien sûr, ma Carla.
Fan les roses.
Pourquoi elle gémit comme ça? Elle s'est fait mal?
Non, en fait, elle a toujours chanté comme ça. Bon, allez les filles, on y va. On part sur « L'amour est un oiseau rebelle » dans « Carmen » de Bizet.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser.
C'est bien occupé, et tu conviens de refuser.
Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait.
L'autre n'a rien dit, s'il te plaît.
Bon, tu ne chantes pas assez avec ton anus, Carla. Écoute, on va la retenter tout à l'heure. Je vois qu'Étienne Dao est arrivé.
Salut.
Plaît-il?
Salut.
Oh là là, j'entends rien. Ça doit être le cymbaliste qui m'a à moitié rendu sourde.
Non, Patricia, elle te dit salut.
Ah, salut Étienne.
Je vais faire un petit échauffement, si ça vous dérange pas.
Allez, vas-y, réconcilie ton yin et ton yang.
N'importe quoi.
Il a du mal à respirer, non?
Faudrait pas appeler un docteur?
Non, il a toujours chanté comme ça. Bon, allez, on y va. Entrée de Figaro, les gars, le barbier de Séville, de Rossini. Allez, faites-moi transpirer de la moustache un petit peu.
Bravo.
Tu ne chantes pas assez avec ton scrotum, Étienne. Ah là là, j'entends Jane Birkin qui gratte la porte. Allez, merci pour tout, Étienne.
Merci.
Bonjour, je vais faire un petit échauffement, moi.
Très bonne idée. Il faut que tu te réconcilies avec les pulsions originelles du cosmos.
Pas très malin hein, de venir enregistrer avec une extinction de voix.
Bon, allez, c'est parti. L'air de la Reine de la Nuit dans la flûte enchantée de Mozart.
Allez.
Eh ben, c'est magnifique, mais il faut que tu chantes plus avec tes sphincters, Jen.
Je me demande si c'était une bonne idée, cet album de duo.
T'inquiète, Patricia, mon ingé son fait des miracles en post-prod. Grâce à lui, je fais illusion depuis 35 ans.
Merci beaucoup, Patricia Petitbon, de vous être prêtée au jeu.
Il faut quand même faire des excuses à Carla.
Mais bien sûr, et à Jen qu'on adore. Mais bien sûr.
Mais pas Étienne.
Et puis à Étienne, mais si, Étienne aussi.
Patricia Petitbon dans Orphée et Eurydice avec Philippe Jaroussky. Sur au Théâtre des Champs-Élysées jusqu'au 2 juin, à l'Opéra Royal de Versailles les 8 et 10 juin, et sur France Musique le 10 juin à 20h. Merci infiniment Patricia Petitbon. Et voici le mot de la fin qu'on laisse à Fabienne Synthèse qui s'apprête à prendre l'antenne.
Attendez deux minutes que je remette ma culotte.